t'étais ici pour le camp Zip Zap.
Ouais, carrément, c'est ça.
Y a plus de zap?
Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel.
Je m'appelle Yann Parizeau et bah, je suis comédien professionnel. Ma compagnie, c'est Huggen Productions, basée à Paris. On est très johnstonien. On a le spectacle Maestro qu'on fait chaque semaine depuis 4-5 ans maintenant et qu'on va continuer à faire pendant très longtemps, j'espère. Et à côté de ça, on a créé pas mal de spectacles. Le dernier en date s'appelle Fushigi et c'est un spectacle dans l'univers de Miyazaki. Voilà. Donc j'ai été aussi formé à l'école Lecoq. Et donc dans ma démarche, j'essaye de faire un peu une synthèse entre le travail de Keith Johnston, le travail de Jacques Lecoq, l'improvisation et éventuellement aussi le travail du texte que je commence à aborder depuis quelques années. Voilà.
Je suis Vinnie François, dirigeant de Théâtre Impro Montréal, un théâtre à Montréal qui fait de l'impro. Et on essaie de marier les communautés anglais-français ici à Montréal, de trouver ce qu'il y a de neuf dans le monde d'impro.
Vous écoutez aussi deux podcasts avec Vinnie, en français et en anglais, dans la saison 3. Mais est-ce que c'est la première fois que tu es à Montréal?
Non. Non, j'étais venu il y a 7 ans.
Ah, t'as fait
de
l'improv?
Avec Vinnie, ouais. J'avais invité pour faire des spectacles avec les E et j'étais venu et...
Ah c'est ça, t'as fait les E, mais ouais. Là t'as Huggen Productions.
Voilà, c'est ça.
Ok, donc vous étiez venu, c'est ça, la troisième édition?
Je crois que c'était en 2012, c'était avant même Improv.
C'était peut-être, oui, avant qu'on prend contrôle de Improv, parce qu'Improv ça existait avant que nous soyons partenaires.
Voilà.
Alors, je pense que t'étais invité juste pour faire des spectacles.
Ouais, c'est ça. Et on avait dormi dans le théâtre, sur le sol, sur des matelas. C'est parce qu'il n'était pas encore très
l'ancien.
Bien construit.
Non, ben, les studios en arrière du petit, le petit impro, c'est un théâtre.
Ouais.
En arrière, on a des studios où on donne des cours.
Okay.
Mais avant qu'on l'a tout rénové pour être des studios, c'était un appart.
Ok. Ah, la chance.
Ouais.
Donc là, t'es revenu pour le 15 Zip Zap. Mais sinon, t'es plus à Paris, puis je pense que c'est la première fois que sur le podcast, j'ai un Johnstonian ouvert.
OK. Wow. Grosse responsabilité.
Non.
Mais, t'as les droits maintenant.
Mais qui le met de l'avant.
Mm.
Dans le sens où, ouais, tout le monde a des influences de partout ailleurs, mais toi, c'est vraiment comme une c'est quand même la plus grande influence pour tes productions, ton jeu en ce moment.
Absolument, ouais. Ben, Keith, c'est la personne qui m'a le plus influencé sur scène et même hors scène, quoi. Il est... Pour moi, c'est un génie et il n'y en a pas beaucoup des génies chaque génération. Donc, j'étais très content de le rencontrer et de travailler avec lui. Et ouais, il m'a beaucoup, beaucoup influencé. Même quand j'ai commencé à me dire « Tiens, j'aimerais bien devenir comédien », j'ai cherché un peu dans le métier de comédien quelles étaient, on va dire, les écoles qui étaient dans la même zone, en fait, dans la même région, on va dire. Pédagogique. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vu, par exemple, Jacques Lecoq.
Ouais.
En fait, il y a une filiation entre Keith Johnston et Jacques Lecoq,
mm-hmm.
qui remonte à quelqu'un qui s'appelle Michel Saint-Denis, qui était un professeur de masque, qui était lui-même un élève de Jacques Copeau.
Okay.
Et Michel Saint-Denis est allé à Londres, il a créé sa tradition des masques. Les masques ont influencé quelqu'un qui s'appelle Georges Devine. Et George Devine a influencé Keith Johnston, et de l'autre côté, il y avait Jacques Lecoq. Donc, comme moi, je suis allé à Jacques Lecoq, il y avait énormément de choses qui faisaient écho à Keith Johnston. Et je dirais ouais, qu'il y a une continuité dans mon parcours de comédien de tout ça, en fait.
Okay. Mais c'est ça, parce que je suis en train de me dire que moi, j'ai eu un professeur qui a étudié aussi avec Jacques Lecoq. Bref. Là, on est des enfants.
Oui, c'est ça.
Mais
il faut... En fait, je pense que les improvisateurs croient tous que qu'ils ont tout inventé.
Ah, c'est fou, ça.
Et qu'il n'y a pas de filiation, qu'ils s'inscrivent. Voilà, ils ont dit « Ah, j'ai inventé l'impro ». Et en fait, non. Les concepts sont là depuis des années. On va dire, il y a quand même des grandes familles. Stanislavski, Coppo... Même Stanislavski, il y a une tradition de l'impro chez Stanislavski. C'est un des premiers à avoir dit l'improvisation pour la formation du comédien, pour la préparation du personnage. Et il y en a encore plein d'autres. Même Spolin, c'est plus le travail social, Boal. Et on se dit, non, moi, j'ai inventé l'impro. Je connais des gens qui sont fiers de n'avoir jamais lu de livre. On dit, mais moi, je n'ai jamais lu de livre. Ils sont fiers de ça, tu comprends? Ouais. Ça, ça fait... Je trouve ça un peu triste.
Ouais, je comprends. Mais c'est fou. Ben, moi je me heurte contre ça presque... Ben, pas à chaque jour, là, mais du fait que... Tu sais, quand je dis que, justement, je reviens du Rhode Island, je suis allé faire de l'impro, là, les gens font comme, « Ah oui, comment ils jouent là-bas? » Puis là, je fais, « Ben, il n'y a pas de match. » Là, ils font, « Hein? » Là, il y a quelque chose qui se brise dans leur âme parce qu'ils font « Attends, on n'a pas inventé l'impro, puis ils font d'autres choses. » Et c'est ça, je veux dire, au Québec, c'est dans l'esprit populaire, on a inventé l'impro à cause du match. Mais sinon, c'est un peu partout comme ça dans le monde. T'sais, je veux dire, aux États-Unis, quand je dis « Ah ouais, nous autres, on joue devant des salles de 500 personnes, puis ils font « Hein? » Vous faites quoi, un Harold? Puis là, tu fais, mais non, on fait d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se font. On dirait qu'il y a des... justement, tout le monde dans son petit coin de pays pense avoir inventé l'impro, comme tu dis.
Mais je pense que parfois, c'est mal vu de dire, oui, je suis Johnstonien. Ou,
ouais, mais c'est pour ça que je te dis.
Mais pour moi, c'est plus.
Ouvertement Johnstonien, là. Tu sais, c'est.
Mais pour moi, c'est plus admettre son héritage et en fait honorer son héritage et dire merci aux personnes qui sont passées avant nous. Ouais. Mais aussi pour dire aux autres, ça veut pas dire moi c'est mieux, ça veut dire.
Non, mais.
C'est qui je suis.
Ouais.
En fait, c'est comme. Je pense que c'est très intéressant parce que les problématiques d'identité, c'est une des problématiques majeures du 21e siècle. Et vous, au Québec, je pense que c'est un vrai sujet.
Oui.
Mais on peut pas accueillir... J'ai peur de ce que je vais dire. Mais on peut pas accueillir dignement...
Je fais pas de montage. Hein.
Ah, tu fais pas de montage?
Non, je fais pas de montage.
En fait, pour accueillir l'autre,
ouais,
il faut vraiment savoir qui on est.
Oui.
Quand on sait pas qui on n'est pas bien dans notre peau. Mm. Et l'autre, en fait...
On va mal l'accueillir.
Enfin, quand je dis accueillir, ça veut pas dire forcément une immigration ou quoi que ce soit, mais ça veut dire simplement avoir une bonne relation avec l'autre, riche.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut aussi dire, ça, on n'est pas d'accord.
Ouais.
Et c'est très bien on est d'accord qu'on n'est pas d'accord.
Ouais.
Mais il faut le dire. Et en impro aussi, il y a ce truc où le oui est, maintenant, en fait, il faut toujours dire ah, mais ça, c'est génial, ça, c'est génial, ça, c'est génial. Et jamais tu dis ça, j'aime pas. Ça, c'est nul. Ça, c'est pas bien. On manque la responsabilité de nommer ce qui va pas bien aussi. Tu vois,
on fait pas
ça parce qu'on a peur de se faire rejeter par la communauté. On veut pas être le méchant. Et c'est pour ça que par exemple Johnston, beaucoup de gens le détestent parce que dans son livre, il écrit This is stupid.
Ouais.
Et il le dit, et les gens ils sont là, ah, Johnston, this is stupid. Oh non, non, je peux pas dire ça. Il a dit, il a mis le jugement.
Ouais.
Et ça, c'est. Je déteste Johnston maintenant. Enfin, je comprends.
Ouais.
Mais
tu sais, après ça, tu sais, c'est pas le premier quand même à émettre des jugements. Je veux dire, dans un livre peut-être, là, ça a plus d'impact, mais tu sais, dans notre entourage, à émettre des jugements sur ça. Non, ça oui, ou c'est juste trancher.
Oui, mais ça, c'est les employateurs qui le font en privé, après le show.
Mais...
Ils font « Hey, c'était super !» Oh là là, quand il a fait cette scène-là, c'était terrible. « Hey, ça va toi, on va prendre
une bière. » Non, mais je parle pas de ça, je parle plutôt, mettons, tu vois, Mathieu Lepage, quand il est allé à Paris pendant un bout de temps, en revenant, il a fait son dernier podcast, c'était sur le fait qu'ici au Québec, on se posait pas la question à se forcer, puis tout ça, puis... Puis il y avait quelque chose tu sais, le message, moi, ça fait quoi, 45, 46 podcasts que je fais, puis je pense avoir le même message, mais lui, en 5 minutes, il l'a fait, mais vraiment sur un ton provocateur qui a fait que les gens ont fait « Ah! » Tu sais, il y a eu comme une grosse réaction épidermique, puis tu fais, tu sais, est-ce que Johnston, en disant « This is stupid », c'est ça qu'il veut créer? Est-ce que Omar Galvan avec YesBot, ben, il m'en a parlé. Et ben, je pense que le podcast va être sorti avant que celui-là. Ouais. Mais il dit, tu sais, c'était pour créer une réaction. T'as-tu lu? Non?
Oui, je l'ai lu, ouais. C'est super. C'est vraiment
bien ce qu'il a dit. Je te le passerai. Mais oui, il faut brasser la cage un peu. Est-ce que c'est ça que tu penses qu'il faisait, Johnston, avec...
Non, moi, je pense...
This is stupid.
Je pense qu'il a eu une époque provocatrice, adolescente,
ouais,
comme tout le monde. Après, quand il est allé au Canada, à Calgary, c'était vraiment la fuite. Parce qu'en fait, il fuyait... Ce qui est hyper intéressant avec Kiss, c'est qu'il fuyait la censure. Et il faut se dire... Nous, aujourd'hui, on est des enfants gâtés.
Mm-hmm.
Parce qu'on a des conditions extraordinaires pour créer des choses. On n'a personne qui vient nous dire « tu n'as pas le droit de dire ça ». Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, avec tous les sujets de... Comment dire... ne pas choquer le public, créer des safe space sur scène, tout ça, il y a un retour de qu'est-ce qu'on a le droit de dire et pas le droit de dire sur scène.
Ouais.
Mais ça part d'un bon sentiment, je dirais. Mais lui, il fuyait la censure. Et pour lui, je pense... Calgary, c'était un peu un lieu isolé d'expérimentation. Enfin, c'est quand même pour lui à l'autre bout du monde, quoi. Hein. Et en plus, je pense dans les années 60-70, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait l'industrie pétrolière, et lui, il venait faire du théâtre au milieu de l'industrie pétrolière. Donc, il était perdu dans son coin, et il était très content. Et moi, je pense que c'est un peu là où j'en suis aujourd'hui dans mon parcours. C'est... J'ai eu une phase où je disais, le match, c'est nul. Je déteste le match, c'est de la merde. Et les gens faisaient « Mais tu nous provoques là !» Et je fais « Ouais, mais c'est nul !» Et je comprenais pas pourquoi ça énervait autant les gens. Et maintenant, je comprends. Mais maintenant, je me suis dit « Non, je vais aller dans mon coin, dans ma petite île, dans ma petite grotte, dans mon petit jardin, et je vais cultiver mes choses de mon côté, et ça me donne une sorte de liberté. » Et je pense que quand Kiss dit « This is stupid », il le dit pour lui-même.
Il dit ça par rapport à...
Il dit ça par rapport à
scene.
Non, il dit par exemple there are scenes that are nonsense.
Ouais.
And you have to say it. You have to say this is nonsense.
Ouais. Ah oui, mais complètement.
Et il y a beaucoup de gens qui disent ah non, c'était fun, c'était drôle, super, bonne scène. En fait, il dit quand tu laisses un groupe évoluer tout seul, ça devient juste des gars qui montent sur scène et qui font des blagues et qui se mettent des tapes dans le dos. Ça, c'est assez systématique.
Oui.
Et il dit, il faut quand même que quelqu'un prenne la responsabilité de dire, hey, les gars, ce qu'on fait là, c'est stupide.
Mm-hmm.
Et personne n'a envie d'être cette personne et personne n'a envie d'entendre cette personne dire ces choses-là. Je pense que c'est ça qu'il dit dans son bouquin.
Oh, oui.
Et je pense que tu peux avoir une période rebelle où tu dis au monde, ce que vous faites, c'est nul.
Mm.
Et après, tu comprends que les gens, ils vont pas t'écouter. Ce qui va faire que les gens t'écoutent, c'est quand tu crées des choses et que ça parle aux gens. Et là, ils viennent t'écouter.
Ben complètement. Mais ben moi voilà. Je suis là, tu sais, je suis vraiment dans une quête de pluralité des genres, de vraiment, tu sais, pas nier tout ce qui est, tu sais, notre folklore. On irait jusqu'à là, nous. Mais tu sais. Pas nier le plaisir des gens qui ont à faire de stupid stuff, tu sais, mais selon moi, après ça, c'est ça, pas dire aux autres, c'est stupide ce que tu fais, tu sais, t'as le droit de le faire, amuse-toi. Après ça, tu peux même m'inviter, je vais peut-être y aller une fois, je vais avoir du plaisir, mais je le ferai pas chaque semaine, parce que c'est pas ça que je veux faire, tu sais.
Ouais, mais après, Vinny disait quelque chose.
Vas-y,
qu'est-ce
va?
Que tu disais,
oui,
Vinny?
Non, Vinny disait...
Vinny, qu'on peut retrouver dans l'épisode... si vous ne me rappelez plus.
Oh.
Saison 3.
Oui.
7 et 8, genre.
On verra, moi.
Ouais.
Qu'est-ce que je disais, les
gars? Je disais, je déteste le match. Non, c'est pas vrai.
Non, pas ça. OK.
Faudrait qu'il joue.
Oui, non, j'ai aucune opinion.
Non. Tu l'as-tu joué, le match?
Jouer le match, oui.
Mais genre.
Ben pas là.
Pas dans une ligue là.
Tu non, juste des comme guest.
Non mais bon.
Comme un invité.
Vinny disait même si j'aime pas ce que font les autres. Le plus important, c'est aussi la communauté et d'avoir des bonnes relations avec ses voisins pour pas qu'on soit isolés les uns des autres.
Pour moi, parce que
qui t'aime pas là.
Non.
Bon, j'ai une liste, je l'énonçais maintenant. Non, mais c'est vrai que je regarde beaucoup d'impro. Moi, je regarde. J'ai vu tellement de spectacles d'étudiants. J'ai vu.
Ah ouais.
C'est
une autre affaire.
Je sais, mais je suis capable de regarder l'impro pour voir. Ok, c'est quoi le but de cette impro? Ouais. Est-ce que le but c'est de vendre des billets? Alors, je ferais un type d'impro qui vend des billets.
Ouais.
Si c'est un impro qui me parle au cœur, je ferais un autre type d'impro. Mm-hmm. Si c'est un spectacle d'étudiants, là, ce qui est bon là-dedans, ça va être quelque chose de différent.
Mm-hmm.
Alors, chaque chose d'impro a son but. Et pour moi, je dis, est-ce qu'ils ont achevé leur but? C'est bon. Est-ce qu'ils n'ont pas achevé leur but? C'est nul.
Ah, ouais.
Et moi, en disant que ce que je travaille, le milieu ou l'art ou le genre dont je travaille ou qui me parle en impro, que de dire que moi je suis bon, tous les autres sont nuls, ça c'est inutile. Ça veut rien dire. Pour moi, je suis confortable dans ce que je fais et j'ai toujours une ouverture de dire « Ah, je peux toujours apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprécier dans le travail de quelqu'un d'autre. »
Mais de dire que tu es fier et que tu as du plaisir, ça c'est bon.
Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on veut pour tout le monde.
Ouais.
Ben, ça serait vraiment triste que tout le monde soit content de ce qu'ils font tout le temps.
Oui. Ah non, il faut être sévère avec soi-même. D'ailleurs, une petite parenthèse, tu sais, en revenant justement des États-Unis, moi, toi qui as plus d'expérience à côtoyer des gens du milieu anglophone, de l'extérieur de Montréal, est-ce que c'est aussi répandu que ça, le tag-out, puis le wipe, puis le fait que leurs shows, c'est toutes, pas toutes, pour la plupart, 25 minutes à juste enfiler des scènes qui se peuvent pas.
Mm-hmm. C'est
avec des callbacks un peu.
C'est le défaut.
Parce que moi, en regardant ça, je fais, si tout le monde fait ça, là,
oui.
Ceux qui l'ont fait la première fois, ils devaient être bons en titi. Parce que là, tout le monde veut juste faire ça, bon, ou écoute, ils savent pas quoi faire d'autre.
Tout ça, c'est la tradition Chicago.
Ouais.
Puis, tradition Chicago, ça comme... ils ont mis des petits grains seeds dans la terre à New York et LA. Puis là,
ça pousse.
Puis tout le monde qui ont eu du succès sont sortis de cette tradition.
De cette affaire-là, hein.
Alors si, moi je veux être sur la télé, je veux faire des films, je veux faire la même chose. Et
c'est
ça,
du rapid fire.
Et c'est comme l'unité standard d'impro, je dirais, au festival, le 25 minutes. Et ça fonctionne assez bien.
Oui.
Mais si, pour moi, quand on a un festival d'impro, moi, je cherche d'autres choses.
Oui.
Mais je veux une variété. Je veux une variété.
Ce que tu présentes au Montreal Improv, ce que vous accueillez, c'est pas ça. Je veux dire, peut-être que de temps en temps, il y a des affaires.
On a un standard comme défaut, surtout pour nos étudiants.
Oui. Sauf que quand toi, tu vas ailleurs, est-ce que ça détonne un peu?
Ben, je suis habitué maintenant. Là.
Ouais.
Je le vois tout le temps. C'est le forme n'est pas ce qui est improvisé ou bien utilisé. Ben, bien utilisé peut-être un peu trop sévère, mais c'est la manière de jouer dans ce 25 minutes, plusieurs scènes qui jouent. Et c'est plus ou moins des variations là-dessus.
Ouais. Mais, et là, toi, Yann, comment tu t'inscris dans ta communauté, parce qu'à Paris, il y a vraiment beaucoup d'impro. Tout est basé là. Après ça, il y a les festivals alentour. Vous avez quand même la chance de... Ben, premièrement, tu joues en anglais aussi. Tu as la chance... ici, on... T'sais, faire un festival en anglais, ça se fait. Mais tu sais, n'importe quel pays alentour de la France qui fait un festival, et même si leur langue, c'est pas l'anglais, ils vont passer à l'anglais. Donc, ça te permet d'aller dans tout, de rencontrer toutes sortes de communautés que nous, on ne rencontre pas. Comment tu t'installes là-dedans? Comment tu te...
Bah, déjà, par rapport à Paris, je pense qu'on est encore très morcelé. Mm-hmm. C'est plus des îles avec des petits bateaux qui passent des unes aux autres, mais ce n'est pas vraiment une communauté encore à Paris. Même si ça commence à émerger, il y a de plus en plus de mélanges. Mais c'est... Paris, c'est tellement grand. On a entre 50 et 100 groupes d'impro. Mm-hmm. Et il y a des...
Juste ça? Non, non, c'est...
Et je pense qu'il y a un peu des chapelles.
Ouais.
Et les groupes se rattachent plus ou moins aux chapelles, mais les chapelles entre elles sont quand même très isolées.
Ouais.
Après, par rapport au festival en anglais... Moi, j'ai commencé les festivals en anglais en 2008. Mm-hmm. J'étais allé à Atlanta. Et après, j'en ai fait presque un par an jusqu'en 2014. Austin, donc je fais aussi Vancouver, Seattle, Hawaï, Chicago. Donc j'en ai fait beaucoup. Et à un moment, j'ai arrêté parce que c'était toujours la même chose.
Mm.
Comme tu dis, 25 minutes, scène courte. Et pour moi, l'impro à l'américaine, je la résume en disant la finalité, c'est de faire des sketchs.
Ouais, ouais, ouais.
Oui.
Et pourquoi ? En fait, je ne sais pas s'ils en sont conscients, les Américains, mais dans l'inconscient collectif américain, le summum, c'est Saturday Night Live.
Ouais, ouais.
Et l'impro n'est qu'un moyen d'accéder à Saturday Night Live.
Plus tu t'approches de New York.
Bah, oui, partout. Mais tu commences à Chicago, et après, peut-être tu vas à LA ou tu vas à New York. Après, tu vas à Saturday Night Live, tu fais tes sketchs, et après, peut-être, tu vas avoir ton film à Hollywood, et là, c'est la star.
Mais ce que je vois, moi, c'est aussi, c'est comme le match ici, au Québec. Tu sais, moi, je me promène beaucoup, puis là, je leur fais faire d'autres choses. Je fais, tu sais, quand je suis allé à Amos, puis j'ai fait faire le dompteur pour la première fois, ils ont fait comme, OK, ça, on savait pas qu'on pouvait le faire. Puis là, tu fais... Bon, puis là, tu vois déjà, la graine est semée, mais c'est juste de faire... Et d'ailleurs, la raison de ce podcast-là, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore qu'on aimerait faire? Ça revient à cette question-là, pense-y.
OK.
Mais... non, mais c'est vrai. Puis là, tu fais... C'est juste que... Tu sais, les gens ici font... Ah, moi, j'aime ça faire de l'impro. OK, qu'est-ce que je fais? Ben je vais faire un camp. Je vais essayer d'intégrer une ligue. Puis je vais jouer, je sais pas combien d'années. Puis après ça, peut-être que je vais essayer une autre ligue. Puis c'est ça le parcours, c'est ça leur possibilité. Puis aux États-Unis, ben tu fais « Ah ben, je vais aller dans un... prendre des cours à telle place, puis après ça, je vais aller au comedy, whatever. »
C'est du stand-up. C'est juste une autre flèche dans leur...
Ouais, puis là, je vais faire des shows de sketch improvisés pendant quelques années, puis après ça, je vais passer à autre chose. Mais... J'ai l'impression qu'ils voient... Tu sais, là, en fin de semaine, j'étais à Providence, puis on a fait faire masse. On était 21 sur scène pendant 45 minutes. Puis il y a du monde, on fait être comme... Ah, OK. Tu sais, puis on réinvente pas le monde, là. Mm-hmm. On fait juste proposer autre chose. Puis il y a des gens... Je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait comme... Mais... Tu sais, puis...
C'est pas pour eux. Ça, hein? C'est pas pour eux.
Mais il y en a d'autres qui ont fait... Hey, ça, j'ai jamais vécu ça. Mais ben, ceux qui étaient dedans... Ça, j'ai jamais vu ça, puis ça m'intéresse, mais tant mieux, tu sais, ça ouvre une porte.
C'est pour plusieurs mondes aux États-Unis, l'impro, c'est pas un but final.
Non.
Et pour eux, c'est vraiment un stepping stone à quelque chose d'autre.
Ben, ça existe aussi en France. Il y avait le documentaire Liberté, Égalité, Improvisée. Et c'est génial parce qu'ils font de l'impro dans les écoles, donc ils donnent...
C'est merveilleux, ça.
Ils donnent, ils donnent confiance en eux à des élèves qui manquent de confiance en eux. Mais tu écoutais, enfin vous connaissez Jamel Debbouze.
Ouais, ouais.
Bah, pour beaucoup d'improvisateurs, je pense, il y a ce chemin de impro, sketch, Jamel Debbouze.
Ouais.
Ou film, etc. Et... Ouais.
Ou Arnaud de sa mère.
Ou Arnaud de sa mère, ou je sais pas qui d'autre a fait de l'impro et est devenu célèbre. Voilà, exactement. Et ça existe. Bon, c'est beaucoup moins prononcé en France qu'aux États-Unis avec Saturday Night Live, mais il y a cet inconscient collectif de je fais de l'impro pour devenir quelqu'un dans le milieu du showbiz.
Ouais.
Et je crois, je reviens à Keith Johnston.
Ouais, bien sûr, tant mieux.
Il est ouvert.
Show business, c'est l'opposé de l'art. Et il disait, regardez Whose Line Is It Anyway?
Ouais.
Et il disait, sur Whose Line Is It Anyway, il y avait un censeur qui arrêtait les scènes et qui disait, stop, vous avez dit Hitler. On peut pas dire ça à la télé. Et également, il disait, le jour où Whose Line Is It Anyway fait pleurer quelqu'un, fait pleurer un spectateur avec une émotion, ça s'arrête. Parce que le fait de pleurer va arriver juste avant la publicité pour la lessive. Donc tu veux pas que le spectateur soit tout de suite acheter ma lessive, parce qu'on veut associer l'émotion positive avec la publicité.
Pour moi, c'est aussi important de noter qu'il y a beaucoup de monde qui ne font pas ça aussi. C'est pas uniquement, je pense que ça pourrait être dangereux de dire ah, les Américains sont
ou
comme
en
ça
généralise.
En généralise aussi. Mais il y a du bon travail qui est fait là, dans plusieurs communautés. Et ceux qu'ils font de manière consciente, il y a toujours une ouverture d'esprit, un esprit d'aventurier dans l'impro, de faire des découvertes, de se pousser, de se risquer des échecs.
Mais même quand tu veux, tu vois, moi, ça m'a pris plusieurs années me défaire de mes réflexes de match, et j'en ai encore, autant parce que c'est là-dedans que j'ai grandi. La même chose pour quelqu'un qui sort de truc qui est plus de sketch. Tu sais, moi je les vois là, mettons les professionnels qui étaient invités au festival, je les ai vus jouer, puis là je fais ah, mais tu viens de ça pareil, tu sais, t'as même t'es rendu peut-être le meilleur de ça, tu pousses plus loin, mais tu pars, tu sais. Puis ici, quand on a quelqu'un qui veut faire comme ah oui, on fait un autre show d'impro, oui, ok, alors on pourrait mettre trois équipes à la place, on enlève les règles, tu sais. C'est ça.
Ben, parce que ben, pour moi, il faut être toujours curieux.
Ouais.
Il faut être curieux et de chercher ce qui est. De se poser qu'est-ce qui n'a pas été fait, quoi d'autre qu'on peut faire. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, le défaut, c'est le Herald. Le Herald, c'est depuis les années presque, je dirais, les années 80.
Default,
Le défaut.
Oui, ouais, par défaut. Ouais.
Par défaut, c'est le format, le Herald. Alors, comme ça, c'est OK, on fait de l'impro, c'est entendu que c'est du Herald.
Moi, j'ai jamais compris. Hein.
The Herald?
Ouais.
C'est vraiment un format. c'est un format.
On me l'a expliqué. Je pense que je l'ai vu quelques fois. Je comprends pas.
La première fois que j'ai vu, j'ai dit qu'est-ce que je viens de voir? C'était vraiment aucun sens. Mais lorsque ça m'est expliqué, je comprends et puis je vois pourquoi ça a trait du monde, parce que c'est assez flou pour être n'importe quoi pour n'importe qui. C'est, le Herald, c'est ça. Le Herald, c'est ça. Il y a une structure. Mais comment ça se développe ou comment il est vraiment pliable?
Mais justement, par rapport au Herald et peut-être même à Jonestown, j'ai remarqué aux États-Unis, puis j'en parle souvent dans le podcast, que j'ai l'impression qu'eux, quand ils font de l'impro, du moins ceux qui se font enseigner, essaient de remplir une checklist de, tu sais... Did I yes and? Did I find the game? Did I do it then? Tu sais, puis de faire comme si je fais toutes ces affaires-là, je vais avoir une bonne scène. Puis justement, d'adhérer à une. Je dis pas que c'est une mauvaise affaire, mais d'adhérer à une philosophie ou d'être un Johnstonian. Ouvertement Johnstonien. Est-ce
j'ai l'impression que c'est un peu coming out of the closet.
Oui, c'est ça, comment on le traite maintenant.
Une fois que c'est dit, tout le monde après va changer d'attitude. Bravo. Enfin.
Tout le long.
ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'on va prendre les choses qu'on veut dans ce que qui dit, par exemple, mais. Est-ce que tu n'as pas l'impression, des fois, de manquer d'autres choses? Ou...
Non, pour moi, il y a deux choses. Moi, je fais des arts martiaux, je fais de l'aïkido. Et il y a le fondateur, Morihei Ueshiba. Il y a ses premiers cercles d'élèves. Et eux, ils ont fondé leurs écoles. Mais ils disent quand même, l'aïkido originel, c'est ça. Après, voilà mon interprétation de ce qu'il a fait. Mais il faut arriver à faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut honorer la tradition, essayer de le faire le plus possible comme le faisait la personne avant, mais il faut aussi accepter que on va forcément changer les choses et faire à notre sauce. Mais moi, je déteste. Ouais, je déteste.
C'est nul.
C'est comme. C'est comme l'opposition. Voilà, exactement. C'est comme l'opposition art martial MMA.
Ouais.
Le MMA, c'est je vais prendre ce move de Aikido, je vais prendre ce move du Krav Maga, je vais prendre ce move et mon but c'est de
gagner le match.
Gagner le match et de détruire l'autre. Et art martial, c'est non, il y a une cohérence, une philosophie. Forcément, c'est limité parce que en Aikido, tu n'apprends pas à frapper, tu n'apprends pas à trancher, etc. Mais tu apprends à gérer l'énergie de l'autre. Donc, ça forcément limité. Mais dans cette limitation, ça monte beaucoup plus loin. Dans le MMA, tu pioches à droite, à gauche et tu fais à ta sauce. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a la différence art martial, sport de combat.
Ouais, ouais.
Sport de combat, ça reste dans des règles.
Ouais.
Et c'est un sport. Et en fait, la vraie finalité du sport de combat, qui gagne dans le sport de combat, c'est les sponsors.
Ouais. C'est même pas le spectateur.
C'est même pas le spectateur, c'est même pas l'athlète, ouais. C'est le sponsor.
Ouais.
C'est exactement la même chose. Qui gagne quand on fait du show business, c'est les investisseurs et la pub.
Ouais.
Qui gagne quand on fait l'impro en tant qu'art, c'est le pratiquant.
Et non le public.
Alors c'est compliqué parce que oui, le pratiquant, il est le partenaire de l'improvisateur, c'est le public. Il peut pas faire sans le public, on est d'accord. Mais s'il fait que avec le public aussi, il peut pas non plus. Enfin, bonne question, mais je sais pas comment répondre à ça. La métaphore s'arrête là. Mais j'essaye de dire, il y a quelque chose peut-être de spirituel dans ce qu'on fait, et il faut pas le perdre de vue. Après, c'est très bien qu'il y ait du MMA. Moi, j'aime bien regarder des matchs de MMA aussi sur YouTube, mais il faut faire les choses avec conscience, en conscience.
Ben justement, j'ai l'impression que, ben tu sais, en écoutant les podcasts en anglais, en français, un peu partout, jasant avec les gens, je réalise que on dirait que peu importe d'où on vient, peu importe notre point de départ, si on pousse les gens qui poussent et qui cherchent et qui abandonnent jamais, après je sais pas combien d'années, on se retrouve un peu tous au même endroit.
Oui. Okay. Moi, j'ai une autre métaphore. J'adore la métaphore.
C'est,
il n'y a qu'un seul sommet à la montagne.
Ouais.
Mais il y a plusieurs points de départ pour y arriver.
Ouais. Et chacun, comme Sisyphe, pousse sa boule. C'est la Sisyphe. Sisyphe. Voyons, si je dis Sisyphe, ça. Oui, c'est son frère.
Ben, je comprends. C'est parce que... À un moment donné, il faut découvrir c'est quoi ton esthétique, c'est quoi ton... Qu'est-ce qui te plaît dans l'impro? Et il y a toujours des... Moi et Yann, on a des différences, très claires. Peut-être pas très claires, mais...
On a beaucoup de similarités aussi.
Aussi. Toi puis moi, les trois, chacun, c'est comme des Venn diagrams avec des cercles. Ce qui se touche, ne se touche pas.
Ouais.
Et il faut découvrir, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Puis on intègre ce qu'on veut, puis on rejette ce qu'on veut pas. Et si t'es assez curieux, si tu manges assez de partout, tu vas terminer, on a tous pris les mêmes ingrédients, ça va pas être tellement différent.
Non, c'est ça.
Mais le piège... Si tu prends la métaphore de la montagne, c'est qu'il y a des élèves qui, en fait, attaquent le chemin pour monter, mais 10 fois de suite.
Ouais, ouais.
Ils commencent, tu, et ils redescendent, et ils vont attaquer par l'autre côté, tu, et ils redescendent. Et ils font ça pendant 10 ans, et ils montent pas. Parce que notre phrase, c'est choisir, c'est renoncer.
Ouais.
Il faut renoncer à certaines choses pour avancer.
Oui.
Peut-être, et quand tu arrives en haut, tu vas les retrouver, ces choses auxquelles tu as renoncé, parce que tu vois toute la vallée, toute la montagne.
C'est toute la même montagne.
Oui, c'est ça.
Mais moi, je la remets en question, cette phrase-là, surtout en impro.
Parce que choisir, c'est renoncer?
Ouais. Parce que, tu vois, souvent, quand je commence les ateliers, je pose des questions, puis là, tout le monde doit me répondre. Puis une de mes questions, c'est quoi ton légume préféré, tu sais? Et tu vois des gens déchirés, là, de faire comme... qu'est-ce que je veux dire? Puis là, tu fais, c'est pas parce que tu m'en dis un que tu pourras plus manger l'autre. Là, pour moi, choisir, c'est créer, mais pas nécessairement renoncer.
Je pense que c'est une divergence.
Ça se peut très bien.
Mais c'est comme si tu.
Mais il faut choisir.
Oui.
Ça, je...
D'après moi, c'est la même chose.
Je reprends le...
On renonce en choisissant, mais ça ne veut dire pas le nier pour toujours.
Ouais. Non, mais parce que, tu sais, moi, en fait, je me fais inviter à des affaires. Je dis oui parce que je veux l'expérimenter, je veux savoir c'est quoi. Ou au pire, je suis bien reçu, ça paye bien, au moins il y a ça. mais ça me fait voir, ça me fait encore plus comprendre, ça je veux moins le faire.
Mm-hmm.
Ou ça me fait plus comprendre en le faisant. Je réalise que j'ai moins de plaisir que dans l'autre. J'en ai eu quand même. Mais pourquoi j'en ai moins eu? Mais je le comprends mieux.
Mm-hmm. Mais toi, tu as de l'expérience. Toi, tu as commencé par le match.
Oui.
Tu as quelque part dépassé le match.
Ouais.
Et maintenant, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas.
Oui.
Mais tu as quand même commencé quelque part et tu es resté dedans.
Oui, oui.
Et c'est ça qui t'a structuré. Et en art martiaux aussi, pareil, ils disent Shu, Ha, Ri, c'est trois étapes. C'est un, acquérir, deux, maîtriser, trois, transcender.
Mm.
Mais tu ne peux pas commencer à transcender sans acquérir.
Ouais.
Et c'est trop bien d'être dans la dernière phase, mais au début, je dis aux élèves, alors moi je vais dire un truc, c'est controversé aussi, je dis, si vous prenez des ateliers avec moi, ne prenez pas des ateliers avec d'autres.
Ouais.
Pas pour toujours, mais pendant que vous travaillez avec moi, n'allez pas travailler ailleurs. Quand vous aurez fini de travailler avec moi, allez ailleurs. Allez dans une autre école, je vous en recommande plein. Allez même chez les gens que moi j'aime pas ou que vous, que j'ai dit que j'aimais pas, etc. Parce que je vous donne un exemple. Un atelier d'impro, c'est 2 ou 3 heures. Une fois par semaine.
Ouais.
Moi, je crois à quelque chose qui s'appelle la frustration.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas travailler 3 heures et tu vas être frustré parce que tu n'auras pas assez de temps. Et aussi potentiellement parce que dans les 2 ou 3 heures que tu vas avoir travaillé, tu auras eu des difficultés.
Ouais.
Si le lundi soir, tu fais ça, et le mardi soir, tu vas dans un autre atelier où tu t'éclates, en fait, toute l'énergie que tu as accumulée dans le jour précédent va se diluer.
Mmh.
Et je pense qu'il faut garder la frustration en soi pour que ça débloque son potentiel, en fait.
Est-ce que c'est une frustration personnelle que ça débloque ailleurs que chez toi?
Je sais pas, je vais en vrai. Non, ça débloque en toi.
Je te guess.
Non, mais tu montes, tu montes sur scène et tu n'as pas... Tu as raté.
Ouais,
et pour les débutants, c'est très bien de dire « Ouais, j'ai fait une erreur, youhou !» Mais au bout d'un moment, si tu fais que ça, tu n'évolues plus. Il faut, je sais pas comment dire ça, mais des fois, il faut goûter un peu la douleur de l'échec.
Mm-hmm.
Il faut se planter et rester au sol. Il faut pas se relever tout de suite. Il faut se dire « Là, je me suis bien planté. Maintenant, j'ai envie d'évoluer, de grandir.
Mm-hmm. »
Et si tu vas piocher à droite à gauche, tu grandis pas, en fait.
C'est ça. Si tu fais pas d'erreur, tu l'as appris, tu arrêtes à apprendre, tu arrêtes de grandir, de évoluer. C'est ça. D'après moi, c'est ça que tu dis.
En fait, je dis plus qu'il y a une.
Non, je l'ai dit déjà. Tu peux arrêter.
Ok, c'est vrai.
Vas-y.
Je dis plus qu'il y a une facilité. Voilà, consumériste.
Mm.
On est dans une époque de consommation.
Ouais.
Donc, je consomme mes ateliers comme je consomme des fruits et légumes, etc. Mais...
Peut-être plus des séries télé.
Ou des séries télé, exactement. Mais qu'est-ce qui se passe si on reste dans une pratique seulement? Je pense qu'on va progresser plus.
Ouais, probablement. Mais sauf que... Il reste que... Je suis d'accord avec toi, mais je me vois mal... je peux pas le dire. C'est à eux de faire ce qu'ils veulent, là. T'sais. Mais... Ouais.
Parce que tu as souvent les élèves qui viennent dans ton atelier.
On a des élèves...
Une phrase typique, c'est... Oui, mais moi, j'ai appris ça là-bas.
Alors, ça, ils ne le font pas vraiment. Mais des fois, ils vont me dire... Il s'est passé ça ailleurs. Puis là, j'étais pas là. Je veux dire...
Vas-y.
C'est ça. Si t'as appris ça ailleurs... Moi, en fait... C'est ça. La différence, c'est que j'ai de la misère à poser des étiquettes sur ce que j'apprends. Moi, je veux dire, OK, on apprend à marcher, ben marchons. On va marcher, on va faire nos gammes, on va marcher. Tu sais, après ça, ah ouais, quelqu'un m'a dit, déplace plus ton poids ici. Oui, si ça te parle, mais je veux dire, il reste que on va continuer à faire des exercices pour que tu marches, tu sais. Puis, donc, si on a pris des notions ailleurs, si ça leur parle, tant mieux, mais en autant que ça les empêche pas de faire.
À un moment donné, il faut arrêter d'échantillonner.
Oui, ouais. C'est ça.
Il faut arrêter d'échantillonner, de dire, OK, là, j'embarque dans quelque chose. Mm-hmm. C'est bon, au début, si tu connais rien en impro, vas-y, prends-y des petits goûts.
Ouais.
Dis, oui, vas-y. Mais à un moment donné, il dit, OK, c'est ça que je veux,
ouais.
J'embarque.
Ouais.
Et après, tu reviens à échantillonner. Et après, tu refais un chemin seul.
C'est ça.
Après, tu reviens à... En fait, c'est étendre et concentrer. Et c'est... Et ça, c'est la vie, quoi. C'est...
On t'habitue, nous autres, à l'hiver, l'été.
Oui,
oui. Ça, c'est...
On a le temps avec la neige.
C'est ça qui fait des nids de poules dans les rues. Mais...
Dans le cœur.
Qu'est-ce que... Ben, venons-en au cœur. Qu'est-ce que t'as pas fait en impro que t'aimerais réaliser un jour? Et là, je tiens à préciser, pas de limite. Tu peux. C'est pas obligé d'être. Tu vois, dans ce cas-ci, choisir, c'est pas renoncer.
OK.
Non, mais je veux dire, si tu me choisis de me parler de quelque chose.
Tu peux parler d'autres choses. Après.
Ben, tu vas pouvoir faire les autres choses après.
OK. Oui, carrément.
Ben, c'est ça. Dans ce cas-ci. Voilà. Mais, non, mais je veux dire, moi, je me mets à rêver souvent, tu sais, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aimerais faire, puis je me mets à fabuler des choses impossibles qui, finalement, après quelques semaines, je fais « Ah, mais peut-être de cette façon-là, c'est possible. » Et finalement, je l'ai fait. C'est pour ça que ma... Puis ça peut être aussi simple, ça peut, tu sais, c'est sans limite ou très, très, très simple aussi, là, je veux dire. Mais qu'est-ce que t'as pas fait encore que t'aimerais faire?
C'est une question que je me pose assez régulièrement. Et en fait, la réponse pour moi, c'est payer les gens.
Oui.
Ça, ça me fait rêver.
Oui.
De dire, ça n'existe plus les shows gratuits. Ça n'existe plus les spectacles où on dit, viens, on joue et je te paye pas. Je crois que quand tu payes les gens, ça change tout ton approche de ce que tu fais. Depuis le point de départ où tu te dis, si je veux jouer sur scène et payer les gens, il faut que ma salle soit remplie.
Ouais.
Si je veux que ma salle soit remplie, il faut que mon spectacle parle au public. Si je veux que mon spectacle parle au public, il faut que j'ai une bonne communication, mais il faut que mon spectacle fonctionne bien.
Mm-hmm.
Et en même temps, il faut que mes comédiens comprennent l'objet du spectacle. Et en fait, tout se structure pour que ça devienne intéressant ce qu'on fait.
Mm.
C'est paradoxal parce qu'avant, je disais le show business, il ne faut pas en parler, etc. Mais en fait, je crois que la solution, elle est d'en trouver l'équilibre entre l'artistique et le commercial.
Ouais.
Et il faut que si tu fais un spectacle pur, 100% artistique et que personne vient dans ta salle, c'est dommage. Si tu fais un spectacle complètement rempli mais qui n'a aucune intégrité artistique, c'est pas intéressant non plus. C'est pour ça que les deux questions sont hyper intéressantes et quand tu les mets ensemble, tout se structure. Et au-delà d'un seul spectacle, il faut penser en termes de modèle économique, de compagnie. En France, le modèle économique d'une compagnie, c'est je crée un spectacle, je le tourne pendant 3, 4, 5 ans, je vais au Festival d'Avignon, je vends des dates, l'investissement que j'ai mis sur le Festival d'Avignon, je le récupère tout au long de l'année, ainsi de suite. C'est super, mais je ne pense pas que ça développe vraiment la créativité, parce que quand tu as un spectacle qui marche, c'est tellement rare que tu veux que le garder. Tu ne veux pas le changer quand tu as un spectacle qui marche. Donc tu es un peu piégé dedans. Et à l'inverse, si tu crées 5 spectacles, tu peux pas communiquer dessus parce que tout est morcelé. Donc il faut trouver cet équilibre. Et je crois que l'équilibre, c'est de monter une école d'impro, une compagnie d'impro et aussi des prestations. Et c'est dans l'équilibre entre ces trois zones que tu peux générer de l'argent et mutualiser économiquement et ouvrir des espaces de créativité réguliers où tu vas avancer et, tout en payant les gens, quoi.
Mais oui, c'est ça. Là, il a payé les gens comme « Hey, je vais te donner 40$, puis ça va être ça. » Et il a payé les gens comme « Hey, on est une production professionnelle, puis on va respecter les ententes avec l'Union des artistes et tout ce qui vient avec. Puis parce que là, nous, on est complètement là-dedans en ce moment. Là, avec d'ailleurs, donné à notre campagne de financement. non, mais parce que t'sais, on essaie, on fait des démarches pour avoir des subventions. On rentre pas dans les cases, là. Non. Je veux dire, ah, c'est quoi votre texte? On n'a pas de texte.
Ouais. Je veux dire, tu fais quoi? C'est du théâtre?
Ouais, mais ça nous prendrait des vidéos et des photos. Mais on n'en a pas encore. On n'a pas fait. On a plein d'affaires sur papier, mais on n'a pas fait le spectacle. Mais bref, mais là, tu sais, on paye nos comédiens selon les règles de l'art, selon les affaires. Sauf que pour 6 spectacles, j'ai mis plus d'efforts pour 6 spectacles que pour les 20 derniers que j'ai faits. Mm-hmm. Puis ça vaut la peine de faire cet effort-là parce que j'ai envie de dire aux gens, ben nous, ce qu'on fait, c'est l'équivalent de n'importe quelle autre pièce de théâtre que vous allez aller voir. Puis nous, nos comédiens sont l'équivalent de n'importe quel... moins bien, sinon mieux, mais de la trempe des comédiens de n'importe quelle autre pièce de théâtre.
Je pense que ce qui... moi aussi, je suis d'accord avec ce rêve-là, ouais, pour vous deux. Et c'est de vraiment être... qu'est-ce qu'on définit comme impro professionnel? Mm. C'est quoi ça? Pour l'instant, c'est pas la même que... Ça se compare pas au théâtre professionnel. Ça se compare pas même à stand-up professionnel. C'est pas le même genre de business. Et de vraiment... Pour que ça se mature, il faut payer des gens. Il faut être capable de vivre.
Mais non, mais efforts. Nous, non seulement on paye des gens, on paye une scénographe, puis on paye une éclairagiste.
Oui, oui, oui.
Puis ça part d'eux, le spectacle. Il faut pas juste... Tu sais, c'est ça. Faut pas... Là, je retourne encore aux Américains, mais faut pas juste dire, « Hey, on va prendre 2 chaises, puis ça va être ça, le spectacle. » Tu sais, faut penser à... C'est ça, professionnaliser l'affaire, ça veut dire, ah oui, ben, avant de jouer, peut-être que tu peux changer de vêtements puis pas garder le t-shirt que tu avais. Mm-hmm. Tu sais, c'est toutes des affaires que...
Des petites choses, d'éclairage, comment est-ce qu'on indique des choses, comment est-ce qu'on... C'est le standard pas trop élevé dans le monde impro, surtout aux autres. Pour nous aussi, pour les États-Unis, c'est... Un aspect, c'est l'argent.
Mais après, je pense que ça passe par la responsabilisation des improvisateurs professionnels eux-mêmes, qui doivent arrêter d'accepter de jouer
gratuitement.
Et moi, je connais des gens à Paris qui m'ont dit « Tiens, je t'invite dans ce spectacle. » Moi, j'ai aussi un spectacle pas payé. Ils m'ont dit « Non, j'ai pas envie de jouer dedans. J'ai arrêté d'accepter les spectacles pas payés. » Et j'ai fait « Ah, c'est bien. C'est trop bien. » Je pense qu'il y a de la place pour les spectacles amateurs, les spectacles professionnels, mais ce qui va nous aider à long terme, c'est de se définir comme professionnel et d'agir comme un professionnel et d'arrêter d'agir entre les deux. Il y a aussi un autre truc, il faut peut-être arrêter de créer des nouvelles formes toutes les 10 semaines, toutes les 2 semaines. Voilà ma nouvelle forme, ça s'appelle la table. Voilà ma nouvelle forme, ça s'appelle le plafond. Voilà ma nouvelle forme, ça s'appelle le café. Non, si tu crées quelque chose, un vrai professionnel, il va se dire, j'ai besoin de 50 dates pour le rentabiliser. Donc il faut que tu crées quelque chose que potentiellement tu vas pouvoir jouer 50 fois de suite. Si tu peux pas le jouer 50 fois de suite, ne le crée pas.
Mais nous, on met 60 heures pour 6.
Moi, je suis contre les cartes blanches. Les cartes blanches, c'est la mort de l'impro. Non, je vais... Tu fais une carte blanche.
C'est
tu
autre chose.
Oui, mais tu dis, hey, on va se faire une répète de 3 heures et on joue ce soir carte blanche. Mais non, c'est l'opposé de la démarche du professionnel qui va dire, non, on va travailler 3 semaines, 6 heures par jour. Et là, on va le proposer. Après, qu'il y ait des cartes blanches, tant mieux, c'est rigolo, c'est sympa, mais...
Mais non, mais ça devient, pour moi, ces affaires-là, ça devient mon training, dans le sens où quand je joue une carte blanche, quand je joue un truc qu'on m'invite, je fais, tu sais, moi, j'en fais pas, je donne des formations, j'en reçois pas, j'ai pas l'occasion d'en recevoir, ou j'ai pas le temps d'en recevoir, ou si je veux en recevoir, mais j'aimerais ça vraiment bien la choisir, ou tu sais, ça devient ma formation, jouer ces affaires.
Oui, mais c'est pas ça. C'est pas une formation, une carte blanche. Une formation, c'est aller quelque part avec un prof.
Oui, non, mais ça.
Mais je, mais parce que ce que tu dis, non, mais tous les improvisateurs disent ça.
C'est pas une formation, c'est aussi une formation.
Non, c'est pas une formation, c'est un plaisir d'improvisateur d'aller se frotter à autre chose. C'est bien, mais c'est pas pro. C'est amateur, c'est un plaisir amateur.
C'est pas pro du tout, là.
Ben non.
Ben non, je sais.
Et c'est pas bien.
Non,
this is stupid.
Mais c'est, mais c'est pas pour rien qu'on va mettre 60 heures sur notre spectacle. Mais oui, mais ça, mais nous,
je te donne un autre exemple. Il y a des gens qui disent, comment je fais pour progresser en impro? Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on retombe sur, ils vont piocher à droite, à gauche, ils vont faire des stages avec des formateurs. Mais il y a quelque chose que tu peux pas dépasser si tu ne passes pas du temps long en formation. Tu peux pas débloquer quelque chose en 3 heures un lundi soir.
Non, mais c'est pas en 3 heures un lundi soir, c'est pendant 20 ans les dimanches
soirs. Mais
soir.
Oui, mais.
C'est de ça que je te parle, tu sais, je veux dire.
Mais, même ça, c'est trop long. Il faut y aller 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Quand là, il y a un épuisement, c'est là que ça pète. Et c'est là que ça te débloque et que tu passes à autre chose. Et nous, après, quand tu deviens improviseur professionnel, t'as plus ce temps, t'as plus ce temps-là d'aller te prendre 2 semaines, 6 heures par jour avec un prof. T'as même peut-être pas l'argent, tu vois, mais il faut y aller.
Mais comme je sais, puis dans l'autre sens, je suis d'accord avec toi, mais dans l'autre sens, je fais, tu peux pas non plus passer tes heures dans un local à faire comme. Je travaille que là parce que, ben, comme j'ai dit souvent dans le podcast, je veux dire, t'as beau t'entraîner à jouer au soccer, si le ballon il est pas là, il te manque un élément.
Oui, mais les joueurs professionnels, ils jouent au soccer, mais ils font 6 heures par jour.
Oui, mais avec ballon. Avec le ballon. Oui, moi, je parle, le public, c'est le ballon. Je veux dire, moi, tu sais, je veux dire, j'en ai vu des gens se former tellement longtemps que tu fais, puis après, devant le public, ils lâchent tout. Là, tu fais,
qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce que tu dis, c'est hyper intéressant.
Ouais.
Parce que ça sous-entend.
Mais c'est faux.
ça sous-entend que quand tu es sur scène, en public, tu es encore en apprentissage.
Oui, oui, oui.
Ok, ça, c'est Johnston.
Ouais. Mais non, mais complètement.
C'est très Johnston.
Il est Johnston.
Oui, il est Johnston, je ne savais pas.
Mais non, c'est Johnston qui est barbouché.
Ouais, voilà. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément d'improvisateurs qui disent. La scène, c'est pas l'endroit où on essaye des choses.
Ah, mais non! Mais non! Mais tu sais, moi, c'est 5 places pendant 15 ans, ça a été ça. Ouais. Je veux dire, ça a été ça complètement. Tu sais, je veux dire, et c'est là que je me pose la question, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Tu sais, je me dis à long terme dans qu'est-ce que j'ai pas fait comme spectacle, mais à chaque soir, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aimerais faire. Hein. D'ailleurs, je veux pas couper à ça, on pourrait y revenir, mais. Admettons que t'as tout l'argent qu'il te faut, tu payes tes comédiens, t'as tes heures de répétition payées. Qu'est-ce que t'as jamais fait que t'aimerais faire?
Je sais pas. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est écrire.
Ouais.
En impro?
Non, pas en impro. J'en ai marre de l'impro.
Mais arrête.
Oui, je vais arrêter un moment. J'ai envie d'écrire. En fait... les plus beaux moments que j'ai eus sur scène, c'était pas toujours des moments improvisés. Enfin, il y a eu des très beaux moments improvisés, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'était des moments improvisés par des gens qui avaient beaucoup écrit.
Mmh.
Et quand ils parlent sur scène, ces personnes-là, ils portent un poids de tout ce qu'ils ont sorti de leur trip pendant des années avant. C'est des gens qui écrivent beaucoup, qui peignent, qui dansent, qui... En gros, c'est aller partout ailleurs que dans l'impro, en fait.
Okay.
Mais j'ai pas encore la forme. Et le problème aussi que j'ai, c'est que je suis très heureux de ce que je fais en ce moment. J'ai un spectacle qui s'appelle Fushigi sur Miyazaki. Mm-hmm. Très corporel, ça m'a permis de prendre tout ce que j'ai appris à Lecoq et de le mettre sur scène. Donc ça m'apporte énormément de satisfaction. Et c'est typiquement un spectacle que j'ai envie de jouer encore 200 fois avant de m'épuiser. Et après, en tant que Johnstonien, j'ai joué le spectacle Live Game, qui est un spectacle très très spécial de Keith Johnston, et j'ai envie de le jouer énormément aussi. On parle d'un invité. Après, en impro, non, je sais pas. J'ai actuellement, alors si, bon, j'ai un truc auquel je pense. Ce serait un travail sur la mythologie et les mythes, comme le mythe du Minotaure.
Mm-hmm.
Le mythe, enfin des grands mythes classiques. Je sais pas, j'ai un truc où je vois des masques. Enfin bref.
Non, mais c'est ça, pas obligé d'être abouti.
Truc, là. Non, c'est pas abouti encore, mais voilà, un truc autour de la mythologie.
J'ai juste des impulsions de ah ben si j'en avais le cas. Puis si je fais ça, c'est que un moment donné dans ta vie, ça va arriver le moment où tu vas faire oh, les astres sont alignés, c'est le temps. Il y a quelqu'un qui a l'argent pour mettre sur mon projet de Minotaure. Ben, je vais le faire, tu sais.
Ouais, peut-être.
Sauf que quand on se pose pas la question, ça, les astres s'alignent pas. C'est juste ça. Mais je m'attends pas à ce que d'ici 10 ans, tu l'aies fait.
Non, ouais, oui. Mais, mais en fait, l'impro, ça me fait plus très peur aujourd'hui.
Ouais.
C'est ça le truc. Ce qui me fait peur, c'est d'écrire.
Ouais.
C'est de mettre quelque chose sur le papier et de le figer. Ça, ça me fait peur. Donc, c'est ça que je veux faire.
Ok.
Et tu peux toujours revenir à l'impro avec ce nouveau...
Oui, mais je vais continuer l'impro. Et ce qui me fait peur aussi, c'est d'être pro.
Ouais.
C'est de dire... c'est pour ça que je dis c'est de payer les gens.
Ouais.
C'est de m'engager et de dire « Ok, les gars, on y va, on se lance, on fait une saison de ce spectacle et on se paye. » Et ça me fait peur, mais j'ai hâte d'y être. J'ai l'impression de ne pas répondre à ta question, ça me gêne.
Non, mais oui, non, je veux dire, on répond comme on peut, comme on veut. Non, mais c'est la valeur qu'on accorde aussi à ce qu'on fait. Puis je veux dire, si j'étais artiste graphique, c'est quoi le numéro que je mets sur le petit carton à côté pour vendre ma toile? Parce que, ultimement, j'aimerais ça manger. J'aimerais ça, tu sais, puis j'ai pas envie d'avoir... de travailler à côté dans un autre truc qui me plaît pas, c'est ça mon travail.
Ouais, carrément.
Quand on a discuté de ce qui rend un spectacle professionnel, moi je regarde le prix du billet. Ça me dit beaucoup. C'est 5$, c'est gratuit.
Ouais.
C'est 10$, c'est 20$, c'est 40$.
Ouais.
Ça dit beaucoup.
Mais... Ouais, déjà, nous, notre spectacle, le billet est un peu moins cher que le reste.
Ok.
Que tu fais. Mais parce il est quand même plus cher qu'un spectacle d'impro.
Ben oui. Mais aussi, c'est non seulement évoluer nous-mêmes, l'art, la discipline,
ouais.
Aussi la culture, l'idée d'impro dans le public. Est-ce que ça vaut X dollars pour voir X impro?
Ouais.
Moi, j'ai fait mon école de théâtre en 2014. Et donc, ça fait depuis 2015 où je me suis lancé. Mais c'est que cette année que je me suis dit je suis professionnel.
Ok.
Ça m'a mis 5 ans pour me le dire. Et ce qui m'a permis de me le dire, c'est le fait d'aller à Avignon, de jouer mon spectacle Fushigi, de remplir la salle pendant un mois et de payer tout le monde. Là, je me suis dit, c'est bon, je suis pro.
Mm-hmm. Mais ça ne fait pas de toi moins un artiste.
Non.
C'est juste toi quelqu'un qui doit faire face à la réalité
qu'il faut payer.
De notre système en place.
Oui, mais tu regardes tous les artistes, fondamentalement, ont eu cette contradiction entre je veux faire mon art et je dois vivre. Tu regardes Van Gogh, toutes les lettres qu'il écrit à son frère pour dire « Envoie-moi de l'argent, s'il te plaît. Envoie-moi de l'argent. Je déteste te demander de l'argent, mais j'en ai besoin. » Et lui, il n'a jamais gagné d'argent de sa vie. Puisqu'il est mort en n'étant pas connu, quoi. Enfin, en n'étant pas reconnu. Oui, c'était un artiste. Après, il crevait la dalle. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas envie de crever la dalle.
Non.
Mais j'ai envie d'être un artiste aussi.
Ouais,
donc, je veux faire
Je
veux faire vivre cette contradiction, quoi.
À la maison, comme à
ouais, c'est la contradiction de tout ce qu'on fait. L'argent.
Mais en fait, je me rends compte que les plus belles aventures que j'ai vécues, c'est. Quand j'ai essayé d'être un artiste professionnel. Je déteste ça. Je déteste avoir à chercher ces trucs-là. Mais c'est quand j'y vais que ça m'oblige à faire confiance à quelqu'un.
Ouais.
Ça m'oblige à défendre une idée. Ça m'oblige à convaincre, séduire.
Ouais. Ouais.
Et en fait, peut-être que moi, dans ma tête, je suis aussi entrepreneur. Tu vois, j'aime ce côté entrepreneur de l'artiste. Qui va construire une équipe, trouver des solutions, etc. et avancer.
Mais c'est se convaincre soi-même aussi que sa démarche vaut quelque chose.
Oui.
c'est ça qui est difficile parce que moi, je veux dire, en tant que personne, j'ai eu ça me vendre. Mais vendre ma démarche, peut-être plus.
Ouais. Mais les plus grandes sources de bonheur pour moi, c'est pas toujours quand je suis sur scène. C'est quand je quitte la scène et que je regarde en arrière et que je me dis waouh, on a accompli ça.
Ouais.
Pour moi, quand je fais un spectacle, je vends une expérience. Je fais le Kanzibza, c'est une expérience qu'on vend. Et moi, je veux toujours. Et je travaille pour être fier de ce que je vends. Et si c'est mon art ou une expérience ou n'importe quoi, le but c'est de trouver où la balance entre manger ou juste se faire des choses qui donnent des expériences qui me plaisent seulement. Mais il faut avoir un échange d'argent pour ça, des expériences.
Dans la balance, il y a des choses que tu fais que c'est clairement plus pour manger, puis il y a des choses que tu fais que c'est clairement plus. Puis c'est là que j'accepte d'être moins payé quand ça fait avancer ma démarche. Ça me paye autrement, puis je fais comme OK, je vais le faire parce que justement, j'apprends encore, puis je veux développer. Mais il reste que. Ça arrive pratiquement jamais là, que je joue gratuitement maintenant parce que j'ai fait ce choix-là. C'est ça, faut que ça paye d'une façon ou d'une autre. Mais j'accepte l'avancement de ma démarche en paiement. Faut pas le dire trop fort.
Mais il faut aussi être entrepreneur. Il faut artiste-entrepreneur. On peut être artiste, mais on mange pas si on n'est pas entrepreneur. Il faut être entrepreneur, mais on crée pas d'art avec du cœur sans être artiste. Il faut trouver la manière de marier les deux, de manière où on est capable de vivre avec nous-mêmes.
Mais si tu regardes Molière, pendant des années, il était pauvre. Il tournait, il a eu un sponsor, après il a pu écrire, après il a eu le roi, après il a pu écrire. Ouais. Tu peux pas dissocier l'homme, enfin, ou la femme, la personne de l'artiste. Et de l'œuvre. C'est un tout. Et c'est bien. Et moi, ce qui m'excite aujourd'hui, c'est d'être exactement à cet endroit-là. Parce que ça me fait du bien de plus être amateur. Enfin, ça fait un moment que je ne suis plus, mais l'amateur, en fait, il se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et. Mais c'est la question que tu me poses.
Non, mais en fait, l'amateur, la définition, c'est par amour. C'est-à-dire, il fait parce qu'il aime ça.
Ouais. Mais le professionnel.
Je pense que j'ai beaucoup d'amateurs en moi encore.
Le professionnel, il fait par amour, mais il n'oublie pas que c'est sa.
Mais sa vie. Vivre, ouais.
Et ça change tout. Parce que. Et quand tu arrives à aimer ce que tu fais pour vivre. Mais ça, c'est le bonheur.
C'est
facile à détester aussi.
Oui, c'est ça le piège. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à vivre de ce que tu aimes, tu n'aimes plus ce que tu aimes.
Tu veux plus. Tu veux faire l'impro, tu veux écrire.
Ouais, c'est ça.
Exactement. C'est marrant, ça.
Messieurs, merci beaucoup.
Merci.
Ouais, merci.
Puis on verra dans quelques années si on se recroise. On va voir où on en est rendu.
Bravo.
On va trouver d'autres montagnes.
Merci. Ouais.
Merci beaucoup.
Ouais, merci.
Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.